le magazine des Nations Unies.
$2 million américains du fonds humanitaire RDC pour faire face à la situation humanitaire du Grand Kassai, jugée d'une urgence de niveau maximal. Le coordonnateur humanitaire a approuvé cette enveloppe jeudi dernier. Elle couvre l'assistance en protection et en éducation. Embargo sur les armes, l'ONU décide de reconduire les sanctions concernant la RDC jusqu'au 1er juillet 2018. C'est à l'issue de la résolution 2360, adoptée mercredi dernier à New York. Enfin, la mix parasitémie RDC 2017, entendez, grappe à indicateurs multiples en chantier. Le contenu de l'enquête a été présenté jeudi dernier à Kinshasa au cours d'une réunion d'experts. Un expert de l'UNICEF sera notre invité dans ce magazine.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous, $2 million américains, c'est une enveloppe du fonds humanitaire RDC que le coordonnateur humanitaire a approuvé jeudi le 22 juin 2017 dans la réponse à la situation humanitaire à laquelle le Grand Kassai fait face. C'est en tout cas ce que signale le 7e rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA sur la situation d'urgence dans cette région. Honoré Missenga Kalala nous fait le point de ce rapport.
Le dernier rapport du Bureau de coordination des affaires humanitaires OCHA RDC couvre la période allant du 1er au 22 juin 2017 et a été produit en collaboration avec ses partenaires du Kassai central et du Kassai oriental. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, M. Stéphane Aubrien, qualifie d'urgence de niveau maximal dans ces trois provinces la situation humanitaire. Et comme réponse de première urgence du Fonds humanitaire RDC à cette situation, le coordonnateur humanitaire a approuvé un financement de $2 million américains destiné à la protection et à l'éducation, c'était jeudi le 22 juin dernier. Au passage, le rapport rappelle aussi la visite à Kananga, chef-lieu du Kassai central, le 9 juin 2017, du directeur des opérations OCHA, John Geng, où il a rencontré les communautés affectées par cette crise, les autorités locales et les acteurs humanitaires. Autre fait saillant relevé par OCHA, 55 940 nouveaux déplacés ont été enregistrés dans la ville de Chikapa, chef-lieu de la province du Kassai, et quelques 500 filles et garçons ont été utilisés comme combattants ou boucliers humains par des milices, alors que 600 cas de violence basés sur le genre ont été rapportés depuis août 2016.
Nous lisions également en titre, le Conseil de sécurité a décidé mercredi dernier de reconduire jusqu'au 1er juillet 2018 les sanctions concernant la République démocratique du Congo et de proroger jusqu'au 1er août 2018 le mandat du groupe d'experts du comité 1533 chargé de surveiller l'application des sanctions imposées. Cette décision, contenue dans la résolution 2360, a été adoptée à l'unanimité à New York. Et les détails, c'est avec Jean-Pierre Elali, Ikoko.
Ces sanctions portent sur l'embargo et sur les armes à l'encontre de tous les groupes armés et milices étrangers et congolais opérant dans l'est de la RDC. Par ailleurs, le Conseil de sécurité condamne avec la plus grande fermeté le meurtre en mars dernier de deux experts onusiens qui surveillaient l'application du régime des sanctions dans le Kassai central. Il a décidé que le fait de planifier, diriger ou commanditer des attaques contre les soldats de la paix, de la MONUSCO ou des membres des Nations Unies, notamment les membres du groupe d'experts, ou d'y participer, ces faits donc, entreraient désormais dans le cadre de mesures soumises à sanctions au titre de la résolution. Les conseils condamnent aussi les exactions commises par les groupes armés et exigent qu'ils mettent immédiatement fin à toutes les formes de violence et autres activités déstabilisatrices, notamment l'exploitation des ressources naturelles. Pour sa part, le représentant permanent de la RDC aux Nations Unies insiste pour que les sanctions soient prises contre le multinational qui approvisionne les criminels en armes et contre aussi les pays de transit et d'accueil de minerais de sang. Ceci permettra de mettre un terme au pillage des ressources naturelles du pays ainsi qu'au trafic d'armes et de munitions. Pour rappel, c'est depuis 2003 que le Conseil de sécurité a imposé pour la première fois un embargo sur les armes à l'encontre de tous les groupes armés et milices étrangers congolais opérant dans le nord et le sud Kivu et en Ituri.
La RDC a enregistré 431 violations des droits de l'homme en mai dernier, ce qui représente une légère baisse par rapport au mois d'avril 2017, au cours duquel 466 violations ont été documentées. C'est ce qui ressort du rapport mensuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, présenté mercredi dernier au cours de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Toujours selon ce rapport, 1711 violations de droits de l'homme ont été documentées depuis 2015, mais le nombre des cas enregistrés en quelques mois en 2017 dépasse celui de toute l'année 2015. Écoutez à ce sujet Madame Aurélie Feutsch du Bureau conjoint dans ses propos recueillis par Jean-Pierre Elali. Ikoko.
Le BCNUDH a documenté 431 violations sur tout le territoire de la RDC. 60% de ces violations sont attribuables à des agents de l'État et 40% à des groupes armés. Nous en sommes actuellement à 1711 violations depuis 2015, 349 depuis le début de l'année 2017. Il convient de noter que nous avons dépassé les chiffres de toute l'année 2015 en quelques mois seulement. Sur un point positif, après la forte augmentation des exécutions sommaires et extrajudiciaires documentées en avril, nous étions à 234 victimes. Nous avons ce mois-ci, donc le mois de mai, 102 victimes d'exécutions sommaires et extrajudiciaires.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Une nouvelle loi en cours d'examen au Parlement pour la protection des avocats dans l'exercice de leur profession. C'est l'un des sujets portés à la connaissance des avocats des barreaux de Kinshasa, Gombe et Matete au cours d'un atelier organisé du 19 au 21 juin 2017 à Kinshasa. Un atelier organisé par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme en partenariat avec les deux barreaux. C'est un atelier sur la protection judiciaire des droits des avocats. Suivez plutôt l'entretien que le bâtonnier Kayudi Misamukoko a bien voulu accorder à Honoré Missenga Kalala en marge de ses travaux.
Monsieur le bâtonnier, bonjour.
Bonjour.
Un atelier d'échange pendant 3 jours sur la protection judiciaire des droits des avocats dans l'exercice de leur profession. Qu'est-ce qu'on peut attendre par protection judiciaire des droits des avocats?
D'abord, je voudrais remercier Radio Okapi et surtout réitérer ma gratitude à l'endroit du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme qui, en partenariat avec les barreaux de Kinshasa Matete et de Kinshasa Gombe, a bien voulu organiser cet atelier. Comme l'atelier l'indique, c'est un échange sur la protection judiciaire des avocats car, comme vous le savez, dès par la loi, les avocats sont appelés à exercer leur ministère en dehors des juridictions, mais aussi et essentiellement devant les juridictions. Et donc, il est important de savoir, dans l'exercice justement de ce ministère, comment l'avocat doit agir. Et dans le travail justement qu'il accomplit, y a-t-il des mesures, y a-t-il des mécanismes, y a-t-il des dispositions qui permettent justement de protéger l'avocat ? Non pas dans l'intérêt de l'avocat, mais c'est surtout dans l'intérêt du public et dans l'intérêt de la défense que l'avocat est appelé à assumer.
Alors, 3 jours d'échange, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet atelier ?
Mais d'abord, vous avez remarqué que depuis avant-hier jusqu'à aujourd'hui, il y a des communications de qualité qui ont été faites. D'abord sur les instruments qui consacrent les droits de l'homme de manière générale, et c'est ça le travail du bureau conjoint, mais également sur un rappel des règles déontologiques qui a été fait par Monsieur le bâtonnier de la Gombe, et aujourd'hui justement les mécanismes de protection judiciaire. Et j'ai pu donc axer la communication, notamment sur les principes de la Havane relatifs au rôle du barreau, et qui oblige les pouvoirs public à prendre un certain nombre de mesures en vue non seulement de faciliter l'accès aux dossiers mais également à l'instruction des avocats mais aussi et surtout à leur conférer l'immunité de parole et l'immunité d'écrit qu'ils doivent absolument avoir à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Pendant l'atelier, on a essayé d'évoquer dans les différentes communications plusieurs concepts, notamment concept de violation et d'abus des droits. Entre ces deux concepts, violation et abus, et quelle est la différence?
Je voudrais peut-être illustrer simplement et vous verrez la différence. La Constitution, par exemple, consacre le droit pour tout citoyen qui est interpellé dans tout le degré de procédure, y compris devant les services de sécurité, d'être assisté d'un avocat. Le seul fait d'empêcher un justiciable, un citoyen qui est interpellé au niveau, par exemple, de service, d'être assisté d'un avocat, constitue une violation d'un droit garanti par la Constitution. En revanche, lorsque vous admettez la présence de l'avocat, mais que néanmoins vous interdisez à l'avocat de prendre la parole, d'assister son client, de le conseiller devant cette instance-là, vous êtes dans un abus.
justement du droit.
Monsieur le bâtonnier, dans votre communication, vous avez fait part d'une nouvelle loi organique qui est en adoption au niveau du Parlement. Quelles sont les grandes options de cette loi concernant justement la protection judiciaire des avocats?
Une très bonne question et très pertinente. En fait, la loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale, qui au moment où nous parlons est envoyée au Sénat également pour examen et adoption, consacre trois principes essentiels. D'abord, un privilège de poursuite pour l'avocat qui désormais, pour son interpellation, sa détention, son arrestation, ne relève que de l'autorité du procureur général, qui, l'on sait par ailleurs, dispose seul de la plénitude de l'action publique. Deuxièmement, il est consacré un privilège de juridiction qui fait que si les charges contre l'avocat sont suffisantes et que le dossier commande un procès, que ce soit plutôt la cour d'appel qui soit compétente pour juger l'avocat. Et enfin, qui consacre un principe essentiel en matière d'exercice de la profession, c'est le principe de l'inviolabilité du domicile professionnel, qui empêche donc toute perquisition dans un cabinet d'avocat ou toute saisie de correspondances, des courriers ou des faits d'un avocat hors la présence du bâtonnier de l'ordre.
Mais en cas de flagrance?
Évidemment, en cas de flagrance, la loi donne la possibilité, n'est-ce pas, de déroger aux dispositions qui ont été indiquées et qui consacrent justement cette sorte, si vous voulez, de privilège en faveur de l'avocat. Mais encore une fois, il faut entendre privilège au sens non pas d'avantage, car il s'agit non pas de protéger l'avocat, mais il s'agit plutôt d'une règle qui vise à protéger le public qui doit bénéficier du service de l'avocat. C'est donc dans l'intérêt de la justice, dans l'intérêt du public et dans l'intérêt du justiciable.
Vous avez également insisté, évidemment, en vous adressant à vos confrères sur le respect de la déontologie.
C'est une règle essentielle, car en effet, quelle que soit la norme posée, quelles que soient les dispositions de la Constitution, de la loi du règlement intérieur cadre, il est important de rappeler que ce n'est pas la règle qui gouverne, qui protège l'homme. C'est l'homme qui protège la règle. Il est donc important que l'avocat soit comme la femme de César, au-dessus de tout soupçon. Et pour cela, il doit veiller et respecter à la fois son éthique, ses règles déontologiques, les règles professionnelles, pour éviter d'être amené à mettre en œuvre les dispositions de la loi que nous avons évoquées. Donc, en tout et pour tout, je demande aux avocats tout simplement de se comporter en digne citoyen et de se comporter en digne confident pour mériter et capitaliser justement la confiance que le public se doit en toutes circonstances de faire et de donner à l'avocat.
Je reviens à l'atelier. Seulement une trentaine d'avocats y ont pris part. Que prévoient les barreaux pour faire bénéficier les acquis de ces travaux au plus grand nombre de vos confrères?
D'abord, pour le barreau de Kinshasa-Matete, au courant du mois d'août, nous aurons des causeries morales avec l'ensemble du corps des avocats, ça fait 4000 avocats, et à cette occasion-là, nous allons faire un rappel, justement, une restitution de ce que nous avons reçu aujourd'hui lors de cet atelier. Deuxièmement, enfin, nous sommes en train de travailler avec le bureau conjoint, l'unité qui s'occupe de la question, pour voir comment nous pouvons envisager un partenariat en vue de pouvoir, si vous voulez, tirer les meilleurs profits de cet atelier et avoir une collaboration qui permettent de suivre en temps réel la situation des avocats qui, en cette période qui s'annonce difficile, la période électorale, vont être appelés à accompagner leurs clients qui pourront être interpellés. Il me semble donc que c'est ce chantier-là que nous allons ouvrir immédiatement après cet atelier. Je ne doute pas de la bonne volonté des deux partenaires d'arriver justement à conclure cet accord.
Monsieur le bâtonnier, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Et nous ouvrons cette page par Goma, où la MONUSCO a lancé du 19 au 25 juin une campagne de sensibilisation du personnel de la mission, tant civile que militaire, sur la sécurité de la conduite. Objectif, réduire les accidents de circulation et améliorer l'image de la marque de la MONUSCO sur les routes de la RDC vis-à-vis de la population. Cette campagne concerne tout le pays, Kigali et Entebbe, où se trouvent également des bases de la MONUSCO. Autre nouvelle en bref, avec le volet humanitaire, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation FAO et le Programme Alimentaire Mondial PAM envoient de développer une stratégie d'intervention conjointe en RDC. C'est dans cette perspective que messieurs Dominique Bourgeon, directeur des urgences de la FAO, et sa collègue du PAM, madame Denise Brown, ont effectué la semaine dernière une tournée dans plusieurs contrées du pays, notamment à Goma, Kalemi, Chikapa et Kananga. Enfin, une opportunité pour les étudiants de la RDC. Le Centre d'information des Nations Unies de Tokyo au Japon organise un concours photo intitulé Ma vision des objectifs de développement durable. Ce concours est ouvert aux étudiants du monde entier jusqu'au 30 août 2017. L'annonce des lauréats ainsi que la cérémonie de remise des prix auront lieu le 24 octobre prochain lors de la célébration de la Journée des Nations Unies.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Et notre invité aujourd'hui est Frédéric Entériner, chef de la politique sociale et évaluation à l'UNICEF. Il évoque l'objectif, le contenu et les modalités de mise en œuvre des MIX 6 Parasites RDC 2017, CRAP d'indicateurs multiples. Le draft de cette enquête a été au centre des travaux de la première réunion des experts de différents ministères, jeudi dernier au ministère du Plan. Frédéric Entériner répond aux questions de Jean-Pierre Lally, ICOCO.
Frédéric Entériner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de politique sociale à l'UNICEF et nous venons d'assister à des travaux de la première réunion sur le MIS 6 2017. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'objectif de cette rencontre?
Cette première réunion qui a été présidée par la secrétaire générale du ministère du Plan en présence des directeurs de l'INS avait pour but de partager avec les ministères sectoriels le contenu de l'enquête et les objectifs de l'enquête et son calendrier. Donc nous avons pu aborder au cours de la réunion et des questions-réponses les objectifs de l'enquête qui sont principalement de collecter toutes les données qui concernent la femme et l'enfant au niveau de toutes les provinces du pays, de telle sorte à renseigner les indicateurs du développement millénaire et aussi de permettre au gouvernement d'avoir les données disponibles et récentes pour pouvoir faire de la planification stratégique et aussi élaborer des programmes de réponse aux besoins des enfants et des femmes à la fois au niveau national et de toutes les provinces, les 26 provinces. Donc en cette mesure, l'enquête MIX Parasitémie 2017 va donner un nombre nouveau d'indicateurs et compléter les indicateurs anciens qui existaient déjà dans les enquêtes antérieures.
Vous parlez des indicateurs, là on voudrait avoir un peu l'idée sur le contenu de cette enquête. Qu'est-ce qu'il faut dire?
L'enquête MIX Parasitémie 2017 couvre les domaines traditionnels que les enquêtes MIX ont couverts dans le passé, c'est-à-dire les questions de mortalité infantile et maternelle, les questions de allaitement des nouveau-nés, accès aux soins pour les enfants de moins de 5 ans en termes de vaccination et accès aux consultations postnatales. Et ça couvre aussi les domaines de l'éducation, la participation dans l'école primaire et puis aussi la réalisation de l'apprentissage au niveau du primaire. Ça couvre aussi les questions de discipline à la maison, les pratiques positives des parents par rapport à l'enfant, du père et de la mère, dans l'éducation de l'enfant. Et ça couvre aussi les questions de protection de l'enfant en termes de travail de l'enfant ou en termes de capacité à participer dans les décisions ou à être protégé des violences que l'on peut rencontrer.
Parlons un tout petit peu du calendrier, juillet 2017 et juillet 2018. Le temps est relativement court, une année. Est-ce que vous avez prévu des impondérables et comment vous allez ajuster les temps avec justement ce travail colossal?
Tout à fait. D'abord, je tiens à préciser que sous le leadership du ministère du Plan et avec l'équipe de gestion de l'Institut National de la Statistique, nous avons un calendrier qui a été basé sur les expériences passées, les grandes enquêtes nationales. Donc à ce sens-là, nous avons tenu compte des leçons antérieures. Nous avons aussi pris en compte tous les challenges additionnels compte tenu de l'existence de 26 provinces par rapport aux anciennes enquêtes. Et nous avons élaboré un calendrier que au niveau du ministère du Plan et au niveau de l'INS et des partenaires techniques et financiers, nous considérons comme réalisable. Nous travaillons quotidiennement avec l'équipe de gestion qui est située au niveau de l'INS et le consultant international, à la fois pour le volet malaria et le volet MIX, à assurer qu'il n'y a aucun retard. À ce jour, je crois qu'on peut dire qu'il y a à peine 10 jours de retard sur un calendrier, comme vous dites, qui couvre plusieurs mois. Donc c'est un succès de la part de l'équipe. C'est un succès en termes de leadership aussi de l'INS et du ministère du Plan dans la capacité à mettre à disposition les ressources humaines et techniques qui nous sont nécessaires.
Pour terminer, Frédéric, quelle est l'implication de l'UNICEF dans ces travaux? Parce qu'on parle de l'enfant, un sujet de prédilection de l'UNICEF.
Alors l'implication de l'UNICEF dans ces travaux se fait à plusieurs niveaux. D'abord au niveau mondial, n'est-ce pas? L'enquête MIX parasitémique qui va avoir lieu cette année et l'année prochaine essaye de coller au plus aux objectifs de développement du millénaire. C'est-à-dire que le contenu de l'enquête a été adapté pour répondre aux besoins internationaux mais aussi aux besoins nationaux. Donc c'est déjà un premier engagement au niveau global dans la capacité de l'UNICEF de répondre au mandat d'assurer que tous les pays ont les données indispensables pour les enfants et les femmes. Au niveau régional, nous avons l'appui technique de notre conseiller régional, qui feront des missions d'appui ponctuelles pendant l'exécution du calendrier. Au niveau local, c'est sous la forme de la mise à disposition d'un consultant international qui a déjà fait plusieurs enquêtes mixtes en Afrique de l'Ouest et qui vient donc ici avec beaucoup d'expérience et qui travaille quotidiennement à assurer donc la mise en œuvre du calendrier. À notre niveau en interne, c'est un appui technique et financier sous forme de financement, d'achat des intrants ou achat de matériel utile pour la logistique. Quand on parle de tablettes, quand on parle de tests pour l'eau, tests pour la malaria, tests pour les mesures sur le fonds de l'UNICEF, avec une contribution financière de USAID pour le volet malaria et du Fonds mondial.
Frédéric, Radio Capi vous remercie.
Merci à vous.
Vers la province du Tanganyika, où environ 18 000 ménages des territoires de Kabalo et Nyunzu bénéficient du programme d'appui aux petits agriculteurs, communément appelé PIFOPI. Ce programme a été lancé mardi 20 juin dernier par le vice-gouverneur de la province, en présence des délégations du Programme alimentaire mondial PAM, de l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation et l'ambassade du Suède. Les détails avec Expedi Mwambamubi.
Les grandes lignes de ce programme, appelé P4P, sont détaillées ici par le représentant pays du PAM, Claude Jibidar.
Les petits producteurs agricoles ont besoin d'être appuyés en matière de production, transformation, traitement post-récolte, entreposage, accès au microcrédit et commercialisation.
À part le PAM, le P4P implique également des partenaires tels que la FAO qui s'occupe des volets production et transformation des produits agricoles, alors que le PAM s'occupe du traitement post-récolte ainsi que la commercialisation. En fait, le projet P4P en RDC a été expérimenté pour la première fois de 2010 à 2015 dans le territoire de Kabalo, avant de l'étendre dans la province de l'Équateur. Le royaume de Belgique en était alors le bailleur. C'est donc avec fierté que Mme Jacqueline Ngoï, déléguée des organisations paysannes de Kabalo, est venue témoigner.
Une femme comme moi, là je suis en train de travailler dans les leaderships. Et des autres femmes ensemble avec moi.
Kalemi, Expedi Mwambamubi, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La question de ce dimanche concerne la malnutrition en Ituri et c'est Florence Marchal, coordonnatrice de l'équipe de communication des Nations Unies, qui répond.
Guy Oloum et RTNC2 Développement, Florence, quels sont les éléments qui contribuent à la malnutrition chronique de 400 000 enfants de 4 à 5 ans à l'Ituri, alors que cette province est une zone géographique dont les terres sont arables?
Merci. Et je rappelle aussi que, effectivement, on l'a déjà dit, pas seulement pour l'Ituri, mais la RDC elle-même a le potentiel de nourrir toute la population du continent africain. D'où, effectivement, vraiment une préoccupation concernant cette malnutrition. Alors, dans l'Ituri, quels sont les facteurs? C'est la pauvreté, essentiellement. Les parents, faute de ressources financières, ne sont pas en mesure de fournir une alimentation équilibrée à leurs enfants. Et puis, à cela, s'ajoutent les mouvements de population qui sont liés à l'insécurité et qui empêchent les familles d'avoir accès aux champs, qui font que certaines pratiques alimentaires ne sont pas respectées. Donc ce sont autant de facteurs qui favorisent la malnutrition.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je m'appelle Alazi Mputu Innocent. Père de famille, marié à Madame Lidine Seka Kimanga, avec qui nous avons 6 enfants, 3 filles et 3 garçons. J'ai commencé mes études primaires à l'EP1 Lemba Nord, qu'on appelle communément Saint-Augustin, à Lemba, ici à Kinshasa. Après mes études primaires, je suis allé faire le cycle d'orientation au collège Saint-Raphaël à Limété. Et je suis allé au collège Sainte-Anne à la Gombe où j'ai abordé les humanités littéraires. Bien entendu, à l'époque on était un peu bouillant chez les prêtres, on n'a pas pu terminer les études là. Nous sommes allés les finir à l'Institut Lumumba où j'ai décroché mon diplôme d'État. Et dès là, je suis allé entamer mes études universitaires à l'Université catholique du Congo. Et là, j'ai fait la faculté de sciences et techniques de développement. Et en même temps que j'ai terminé la licence à la faculté catholique, j'ai abordé aussi les études d'agrégation d'enseignement. Et donc, je suis licencié agrégé en économie et développement. Je voulais quand même souligner un fait quand j'étais à l'université. D'abord, j'étais le vice-président du Conseil des étudiants, qui était un organe de représentation des étudiants auprès du comité de gestion. Et ensuite, pendant ce cursus, j'ai eu à participer à un concours qui est généralement organisé par la Fédération internationale des universités catholiques. Et là, je suis sorti lauréat, j'ai arraché le premier prix, c'était l'édition 1994, et j'ai été invité à représenter les étudiants catholiques à l'Assemblée générale de la Fédération internationale des universités catholiques, qui s'était née à Indianapolis, aux États-Unis. Alors, j'ai embrassé la carrière professionnelle jusqu'à devenir là où je suis, c'est-à-dire à la MONUSCO. Et à la MONUSCO, présentement, je suis assistant aux ressources humaines, poste que j'occupe depuis novembre 2014. Un poste qui me plaît beaucoup. Être assistant des ressources humaines, ça me plaît parce que je suis tout le jour en interface avec les gens. Mais en gros, le travail que nous faisons consiste en l'administration des staffs nationaux. Avant d'arriver à la MONUSCO, j'ai eu aussi à faire un parcours. C'est-à-dire que, aussitôt terminé l'université, j'ai été engagé à la société congolaise de pétrole qu'on appelait communément Elf Oil RDC, qui est devenue aujourd'hui le groupe Total. Dans Elf, là, j'ai passé 10 ans d'expérience. Oui, compte tenu de ce que nous faisons ici, on a passé de temps de repos, hein. Mais le peu de temps que nous avons, j'aime le consacrer à la famille, je regarde bien beaucoup la télé et j'aime beaucoup la musique, le sport, le football. Alors, en tant qu'innocent individu, j'aime bien manger, hein, j'aime bien manger, j'ai mes plats préférés. Et moi, je suis un riverain, j'aime bien manger la tortue, c'est mon plat préféré, le crocodile, le poisson frais, et surtout dans la formule liboké, c'est encore plus intéressant. Quand c'est accompagné de l'ituma, de la chikwang, c'est vraiment magnifique. Mes perspectives d'avenir, je totalise aujourd'hui 20 ans d'expérience, 10 ans dans les secteurs privés, 10 ans dans le système des Nations Unies, j'ai emmagasiné beaucoup de choses et dans l'avenir, je me vois dans le casque d'un consultant et rassembler d'autres experts. Hein. Nous sommes nombreux ici à la MONUSCO, on peut s'organiser et montrer un centre d'expertise pour essayer d'apporter quelque chose aux jeunes cadres qui terminent l'université, aux cadres aussi d'entreprises, pour leur apporter les best practices hein, qu'on a, afin de leur permettre de résoudre leurs problèmes. Voilà un peu en gros ce que je peux dire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Une date à noter dans vos calepins pour deux événements. Le 26 juin, c'est ce lundi déjà, et c'est à la fois la journée internationale contre l'abus et les trafics illicites des drogues, mais aussi la journée internationale contre la torture. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama. C'était un plaisir pour moi de vous tenir compagnie. À la mise en onde, Jean-Claude Ntiala. À la réalisation, au reportage, Honoré Mistenga Kalala. À la réalisation et à la coordination, Jean-Pierre Elali Coco, sous la supervision de Martin Sebujangwe. Merci à tous et à très bientôt sur Radio Capi. Ciao.